Chapitre 12. Restez donc ces éternels lieux communs qui sont l'aliment inépuisable de la conversation entre les hommes, point de contact par lequel le dernier goujat et le plus grand génie du monde se ressemblent, je veux dire le vin, la bonne chair et les fillettes. Mais, outre la monotonie du sujet, Jules était toujours surpris du peu de débauche des débauchés, du petit estomac des gourmands, et de l'avarice des prodigues. Il fréquentait un homme à bonne fortune, une manière de séducteur de profession, qui avait régulièrement un amour sérieux par mois, sans compter le reste des anciens, qui durait plus ou moins longtemps. Chaque nouvelle maîtresse était toujours supérieure à la précédente, en âme, en cœur, en beauté, en poésie, etc. Et la suivante survenue, il riait de tout ce qu'il avait dit sur le compte de la première, ainsi des autres. Comme il lisait un jour à Jules une lettre qu'un nouvel ange lui adressait par la poste, Jules fit la faute de rire tout haut à une phrase qu'il reconnut pour être de George Sand. « Vous n'êtes pas digne de comprendre cela !» s'écria l'homme sentimental qui en était à sa 43e bonne fortune. « Sortez, vous me faites mal, vous êtes un cœur sec, indigne de ses confidences. » Il rencontra dans la rue trois jeunes gens qui couraient à une orgie. « Viens avec nous, lui dirent-ils, nous allons faire un crâne souper, tout est payé d'avance, y compris les dames qui viendront au dessert et les glaces que l'on pourra casser. »« Bon, merci, leur répondit Jules, je n'en suis pas. »« Ben oui, dirent-ils. « Tu aimes des femmes que leur figure et des bouteilles que le bouchon. » Ils le quittèrent en ajoutant, « Il faut pour nous refuser qu'il soit un saint ou un impuissant. » Tandis que l'autre, l'homme aux nombreuses passions, disait, « C'est de l'être ignoble, qui ne se sent pas le bon côté de l'amour. La manière est tout pour lui. Quelle vie s'il doit avoir !» 8 jours après, il revit les 3 soupeurs qui en étaient encore malades. On parla de l'art des festins. Jules émit à ce sujet des plans, et si colossaux, des idées si grandioses, que la compagnie s'écria d'un commun accord. « Mais quelle luron vous faites, quel gars, peste, comme vous y allez, nous sommes pas comme vous. Voilà ce qui s'appelle vraiment un roué accompli. » Dans la même soirée, l'amoureux vint lui rendre visite. Jules crut bien faire en commençant par lui parler du charme des liaisons commençantes, de la joie dont les premiers regards remplissent le cœur, des spasmes ineffables qui vous saisissent, de cette douce pente sur laquelle la vie coule quand... « Bah !» interrompit l'ami. « Je suis pas si platonique que ça, moi. » « Vous savez bien, Pauline, cette femme que j'ai entreprise il y a 3 semaines. Ben, son mari est parti en voyage, elle vient tous les jours chez moi, passer au moins 4 heures, sans compter la nuit. Je l'ai montée à un rue de diapason, allez, oh, c'est d'une tigresse maintenant. Il faut voir ça, nous prenons du plaisir tant que nous pouvons, nous nous en donnons à nous faire crever si ça dure. Qu'est-ce que vous en dites, n'ai-je pas raison ?» Jules songeait aux inconséquences perpétuelles, aux variations de tous ces gens, qui vivaient normalement, chacun dans son milieu, tandis que lui, au contraire, si continu avec lui-même et suivant une ligne droite, était toujours en désaccord avec le monde et avec son cœur. Il en arrivait à cet axiome, l'inconséquence est la conséquence suprême. L'homme qui n'est pas absurde aujourd'hui est celui qu'il a été hier, et qui le sera demain. Ses sentiments, d'ailleurs, n'étaient pas plus compris que ses idées, et ses goûts pas plus que ses opinions. Car il est peut-être aussi difficile de trouver quelqu'un qui sente comme vous le monde et la nature, qu'un autre qui soit de votre avis sur la façon dont il faudrait servir un dîner ou équiper un attelage. Un soir, par exemple, un beau soir d'été au bord de la mer, éclairé par la lune, caressé d'une chaude brise, une de ces nuits où le cœur déborde, il parla. Bon, je ne sais ce qu'il dit. Il soupira sans doute d'un étrange soupir, et ses yeux devaient avoir une flamme magique. Une femme, en effet, était à ses côtés. Peut-être ne la voyait-il pas, ou s'il la voyait, pensait-il encore moins à elle qu'aux autres. Eh bien, cette femme, qui était belle, il est vrai, crut à l'attention de ses soupirs et de son regard, et dès le lendemain se mit à les lui rendre. Jules s'attrista de cet amour, il en ressentit pour la vie humaine une pitié sans fond. « Quoi donc ? » se disait-il. « Tout m'est refusé, même les éclairs d'amour qui viennent dans mon cœur, encore plus courts que ceux du ciel, ont à peine besoin d'être vus pour aveugler qui les contemple. Mais où irai-je donc pour respirer tranquille ? Y a-t-il une place pour moi où mes soupirs et mes soupirs ne puissent nuire à quelqu'un ou à moi-même ? » Les flots, les nuages et les forêts lui parlaient bien dans leur langage, mais la voix de ses muets amis se tait quelquefois, et alors à qui faire entendre la nôtre ? C'est un pesant fardeau que de porter seul le poids de son cœur. Par moments encore, il avait des tentations de vivre et d'agir, mais l'ironie accourait, si vite se plaçait sous l'action, qu'il ne pouvait l'achever. L'analyse suivait de si près le sentiment qu'elle le détruisait aussitôt. Quelquefois encore, il prit les fantaisies de son imagination pour les mouvements de son cœur et les ébranlements de sa sensibilité pour des passions réelles, mais elles passaient si vite qu'il les reconnaissait pour des idées ou pour des sensations fugitives. C'est ainsi qu'il laissa inachevées plusieurs intrigues nouées pour passer le temps et dont il était ennuyé dès qu'il entrevoyait le dénouement. Il descendait si vite dans toutes les choses qu'il envoyait le néant du premier coup d'œil, comme ces sources à fleurs de terre dont on trouve le fond rien qu'en y plongeant les pieds. Il retrouva Bernardi, qui jouait à l'ambigu les rôles de vieux prince. Cet homme devait lui rappeler des souvenirs cruels. Il eût pu ne pas le voir. Mais il le vit exprès à cause de cela même, et il s'étonna de se plaire avec lui tout autant qu'autrefois, au temps du chevalier de Calatrava. Jules se lia avec lui, ils renouèrent leur amitié et se lièrent plus intimement que jamais. Ils parlaient de Madame Artémise et surtout de Mademoiselle Lucinde, partie à Londres s'y établir marchande de mode. Elle avait été longtemps la maîtresse de Bernardi après avoir été celle de bien d'autres et avant de l'être aussi d'un plus grand nombre. Jules aimait à causer d'elle, à entendre de la bouche même de Bernardi mille détails intimes qui la dégradaient, mille faits qui outrageaient le souvenir qu'il en avait gardé. Il se la figurait dans les bras de ce comédien vulgaire, il la voyait embrassée par cette bouche-là, déshabillée par ces mains-là, aimant d'un sale amour toute cette sale personne, et le considérant avec une attention tendue, il tâchait de retrouver sur lui quelque chose d'elle, comme une exhalaison du passé et un reste d'odeur. À force de satisfaire ce singulier besoin, il finit par ne plus l'éprouver. Quand il eut bien traîné dans la boue, retourné et rompu à toutes ses articulations le tendre et douloureux amour de sa jeunesse, et que la férocité de son esprit se fût repue de ce spectacle, il trouva moins de charme dans la société de Bernardi, et tout en continuant à le voir, quelquefois, il lui paya moins souvent le café. Henri n'eut pas compris cette façon de revenir sur son passé et de vénérer ses souvenirs. À coup sûr, il n'eut pas demandé à M. Renaud tous les renseignements que Jules réclamait de Bernardi, lui qui, après ses 3 ans de séjour à Aix, hésita s'il n'irait pas revoir Mme Renaud et qui, au bout de 10 minutes de réflexion, se décida enfin pour la négative. Mais c'était un autre homme que Jules, vraiment. Il était revenu fort instruit et très expérimenté. Les hommes mûrs admiraient la rectitude de son jugement, les jeunes gens la grâce de ses manières. Il était d'une élégance exquise, sa simplicité n'avait rien de commun, elle ne sentait pas la recherche. On voyait qu'il avait vu le monde, car il se conformait à ses convenances. On eût pu s'apercevoir qu'il voulait l'exploiter, car il n'enfroissait pas les préjugés et se courbait sous ses tyrannies. Il causait politique avec les députés, agriculture avec les propriétaires, finance avec les banquiers, jurisprudence avec les avocats, régime pénitentiaire avec les philanthropes et littérature avec les dames. Il y avait en lui quelque chose de caressant et d'amical, mêlé à une sorte de franchise insolente, sans impudence, qui agréait beaucoup à la première vue. Il déclamait bien, quelquefois, sur les généralités, mais rarement il en venait à préciser une particularité quelconque, de sorte qu'il faisait plaisir aux coquettes en se déclarant contre la coquetterie, aux petites bourgeoises en médisant des grandes dames, qu'il flattait les demi-vertus en faisant l'éloge de la vertu, et qu'il baisait aux avares en louant les gens économes. Il avait eu successivement, depuis sa première maîtresse, d'abord une dévote qui se confessait chaque fois qu'elle lui avait cédé, une danseuse qui dansait devant lui toute nue pour le divertir, une babeleuse qui lui récitait des élégies faites en son honneur. Il avait quitté la première parce qu'elle était trop difficile, la seconde parce qu'elle l'était trop peu. Et il n'était parvenu à se débarrasser de la troisième, qui était fort laide, qu'en se donnant lui-même un successeur. Il avait fait du sentiment avec la dévote, puis du plaisir avec la danseuse, et sa vanité s'était complue dans la société du bel esprit. Il avait eu la femme pieuse en assistant aux offices, et en se tenant debout, tête nue, tout vêtu de noir, appuyé contre un pilier d'église. Il avait conquis le cœur de la comédienne en débitant des facéties au dessert, et la dernière s'était affolée de lui après l'avoir entendu lire deux pages de Jocelyn. Rien ne serait plus faux que de soutenir qu'il jouait la comédie vis-à-vis d'aucune d'elles. Il les avait aimées réellement, chacune l'une après l'autre. Il avait été tour à tour presque mystique dans la première passion, bambocheur et farceur dans la seconde, littéraire et élégiaque dans la troisième. Tout le monde n'a-t-il pas envie de danser à la noce en entendant les violons, et envie de pleurer à l'enterrement en suivant le corbillard, quoiqu'on se moque aussi bien de la mariée que du défunt? C'est que notre gaieté naturelle est excitée par la gaieté qui vient à notre rencontre, et notre tristesse innée par la tristesse que nous trouvons sous nos pas. Henri ne fit donc que suivre ses instincts d'amour sérieux, en aimant une femme frêle, aux yeux purs et aux poses chrétiennes, dont le chevet était ombragé de buis bénis, dont la phrase était onctueuse et douce comme la prière, passion toute parfumée d'encens et pénétrée de candeur. Il obéit ensuite aux besoins d'une existence pleine de sensualité violente et de plaisirs bruyants, en cherchant à partager celle qui s'offrait à lui, toute remplie de luxe et de vanité sonore, fertile en récréation charnelle et en hasard singulier. Et quand il faisait les yeux doux à cette dame maigre, qui parlait d'une façon si prétentieuse et portait une couronne de laurier dans ses cheveux, c'est qu'il voulait trouver quelqu'un qui parlait délicatement des choses délicates de la poésie, qui pût lui donner sans intermédiaire tout ce qu'il rencontrait de beau dans les endroits tendres des livres, qu'il croyait enfin découvrir le génie et qu'il enviait d'en approcher, de la dominer. Et ce qui eut lieu avec ces trois femmes lui advint également dans ses autres rencontres avec celles qu'il eut ensuite ou celles qu'il voulut avoir. D'abord, il étudiait leur caractère. En cela, il mettait de l'habileté. Mais, malgré lui, il prenait quelque chose de cette nature dont il suivait attentivement toutes les sinuosités et les penchants. Il exagérait ses enthousiasmes, outrait ses antipathies, entrait dans ses propensions, de sorte qu'en se traînant à sa remorque, il l'attirait vers lui et menait l'aventure à son but. À mesure que la femme qu'il aimait davantage reprenait du terrain, redevenait lui-même, le courant de son cœur rentrait dans son lit normal. Peu à peu, la passion arrivait à sa fin, en suivant une ligne pareille à celle qu'il avait amenée à son apogée, ainsi que l'animateur aux montagnes russes qui monte par un côté et descend par l'autre. Mais le voyage se fait plus vite en descendant qu'en montant. Aussi a-t-il d'ordinaire en bas quelques chocs violents qui amènent des cris. Quelle surprise, quelle douleur pour ceux qui tombent de si haut. Les cœurs faibles, ce sont quelquefois les plus forts, s'y brisent et en meurent du coup. Leur chute en effet est multipliée par le carré de la vitesse. Et pourquoi pas, brave lecteur, pourquoi pas vous roncez-vous le sourcil et trouvez-vous la comparaison un peu drôle? Ne dois-je pas semer d'agrément mon discours et embellir mon sujet des fleurs de la rhétorique? Il faut donner de la grâce aux objets les plus disgracieux et anoblir les moins nobles. C'est un précepte qu'on m'a inculqué en 6e. Et d'où vient qu'une métaphore tirée d'une formule physique me serait interdite quand je vous dirais surtout que c'est la seule que j'ai apprise? Ah, le bon Delille a bien fait des vers sur la cafetière, et le code civil lui-même a été mis en vers français par un autre monsieur, lequel devait être un excellent homme, que j'aurais bien voulu voir. Elle pleurait, elle le maudissait, les femmes qu'Henri abandonnait. Il y mettait cependant d'ordinaire tous les ménagements d'un homme bien élevé, et il les envoyait promener de la façon la plus honnête qu'il pouvait aviser. Oh, ce n'était pas par parti pris ou par insensibilité, mais il les quittait naturellement quand il commençait à en être là, tout comme il les avait recherchés dès qu'elles lui avaient plu. Était-ce sa faute vraiment de ce qui n'était pas fait pour endurer au-delà de 6 mois des sermons théologiques sur la grâce, sortis même d'une jolie bouche, de ce qu'il se fatigua d'un carnaval qui avait duré jusqu'à Pâques, de même qu'il reconnut au bout de 15 jours l'incommodité d'une poitrine dont la maigreur était trop fantastique et les tendresses trop alambiquées. Quoi qu'il en soit, la pauvre dévote pensa en mourir quand elle se vit abandonnée de la croyance où son cœur avait vécu. L'étonnement de la sauteuse ne fut pas moins grand quand elle s'aperçut de l'exiguïté de ses moyens pécuniaires et de la faiblesse de son tempérament. Quant à la bas bleue, elle ajouta cette méprise à la liste déjà nombreuse de ses désillusions et s'en consola petit à petit en causant souvent avec un autre. Dans tout ce qui précède dans les 3 exemples cités, comme dans ceux qu'on ne cite pas, il va sans dire qu'il n'est question que de femmes mariées, la jeune fille ne figurant pas dans le corps d'armée qui est à attaquer. En effet, elle ne prend rang dans le monde qu'avec la dot qu'on lui donne et le mari à qui on l'a donné. Pour que quelqu'un songe à s'en emparer, il faut au préalable qu'elle appartienne à un autre et qu'elle porte son nom, ainsi que l'argent, qui a besoin d'être marqué d'une effigie quelconque avant qu'on le livre à la circulation publique. De toutes ses passions et de ses aventures, Henri avait gardé la faculté de sentir, à des degrés différents, les passions qui lui arrivaient et de se tirer des aventures qui se présentaient dans le monde. Il connaissait la marge des sentiments pour en avoir eu beaucoup. Il entendait quelque chose aux déductions des faits parce qu'il les avait expérimentés. À Aix, il avait fréquenté quelques républicains. Il avait été républicain comme eux. Il était devenu humanitaire et socialiste parmi les modérés après avoir été d'abord en sans-culottes et régicide avec les emportés. Et il avait rêvé pour les peuples un avenir évangélique. Admis ensuite dans une meilleure société, il avait admiré les vieilles et austères convictions, les courages vendéens, et il avait regretté la dignité de la monarchie et la loyauté des gentilshommes, effacés comme leur blason. Maintenant, enfin, qu'il briguait une place d'auditeur au Conseil d'État, il était sincèrement attaché au régime actuel des choses, n'ayant qu'à y gagner, et il trouvait naturellement qu'il ne fallait rien changer, ce qui ne l'empêchait pas d'avoir un fond d'idées très libéral avec ses allures d'aristocrate, tout en étant conservateur. Dans sa première année de liberté, il avait considérablement dansé, valsé, dîné, soupé, passé de nuit à faire l'amour et de journée à boire du punch. Mais, s'étant rendu malade, il vécut l'année suivante dans une continence et une tempérance exemplaires, après quoi il se décida à mener un train de vie tout à la fois plus raisonnable et moins rigide. Il avait également d'abord porté les cheveux longs, puis très ras. Ils avaient maintenant une longueur convenable. Voilà comme il était, merveilleusement propre à accepter toutes sortes d'idées et à agir de toutes sortes de façons. Il passait sans difficulté d'une opinion à une autre, d'une raison à une raison contraire, de la brune à la blonde, de l'enjouement à la mélancolie, non par scepticisme et par dédain, mais par une sorte de conviction tiède et d'entraînement paisible qui le rendait dupe de lui-même tout en dupant quelquefois les autres. Il ne croyait pas trop à la vérité de l'amour, à l'infaillibilité de la raison, à la vertu des femmes et à la probité des hommes, et cependant il pensait que son amour était profond, que ses opinions étaient à peu près irréfutables, que sa maîtresse l'aimait éperdument et qu'il était lui-même plein de rares qualités morales. Il n'avait pas de grands espoirs, de sorte qu'il n'éprouvait jamais de grandes déceptions. Il ne voyait rien qui ne fût à sa portée, tout était à lui et pour lui, ce qui était compréhensible, il n'y pensait pas, ce qui était insurmontable, il ne fallait pas d'effort pour l'atteindre, car il y avait beaucoup de bonne foi dans sa vanité, une sorte de naïveté dans ses finesses. Il mettait dans ses tendresses un peu de poésie facile, qu'il avait soin de laisser voir, et qu'il éprouvait juste assez pour qu'on s'en aperçoive. Il s'indignait de ce qui indigne, et se réjouissait de ce qui réjouit. Il a dit « Oh, c'est bien fâcheux à la mort du duc d'Orléans. C'est bien beau aux funérailles de l'empereur. » Et il n'était pas de ceux qui pleuraient, ni de ceux qui tressaillaient. Il n'avait ni haine prononcée pour personne, ni de forte sympathie non plus pour qui que ce soit. Il regardait cependant comme ses amis beaucoup de gens sur lesquels il ne comptait pas. Il avait même du plaisir à les voir et à leur parler, quoiqu'il eût été fâché de les voir trop souvent, et qu'au bout d'une heure il cherchât quoi leur dire. Si une voiture écrasait quelqu'un dans la rue, il en était vraiment attristé et plaignait la victime. Mais il ne courait pas la relever. Cependant, sa digestion en était troublée et il donnait bien 5 francs dans la souscription que l'on ouvrait pour la veuve et les orphelins, tandis que d'autres ne donnaient que 40 sous. Il n'estimait pas ce qui se grise avec de l'eau de vie, parce qu'il préférait le vin. Il trouvait le goût de la pipe trop fort, parce qu'il fumait des cigarettes. C'était aussi quand il était triste qu'il lisait Lamartine, et quand il voulait rire qu'il prenait Molière. Sérieux en toutes choses, il s'identifiait aux circonstances. À demi conduit par elles, il savait en profiter. Quand il avait échoué dans une entreprise, il rejetait la faute sur le hasard, et quand il y avait réussi, il s'en attribuait le mérite. Il avait vu en effet combien l'homme est peu libre de lui-même et quelle force cependant il tire de son énergie et de sa volonté. Sans vénération pour le génie, il s'exemptait d'admirer les grands hommes en attribuant leur grandeur à la nature. Sans amour pour les héros, il mettait leur haut fait sur le compte de leur orgueil. Chose étrange, il se raillait de l'enthousiasme et s'effrayait du scepticisme. Il ne comprenait pas les gens qui meurent d'amour, lui qui avait tant aimé et qui n'en était pas mort. Il ne concevait pas ceux qui vivent en s'en passant, lui qui ne pouvait vivre sans en avoir. Il se plaisait à aller dans le monde parce qu'il y trouvait des femmes qui le regardaient et des hommes qui l'écoutaient. Il se comparait aux plus spirituels, se mettait au-dessus de ses égaux et s'amusait en secret de la bêtise des bêtes et de la laideur des laits. Il savait, dans les marchés les plus honteux, qu'il ne faut jamais nommer la chose que l'on achète et que l'on doit respecter la pudeur des impudiques et la susceptibilité de la canaille. Les voleurs n'aimant pas entendre parler de vol, ni les assassins d'assassinat, car, à part leur habitude de voler et d'assassiner, ils sont peut-être au fond très honnêtes et très humains. Il se croyait encore tendre, parce qu'il l'avait été jadis. Il se jugeait aussi très moral, parce qu'il aimait avoir la moralité chez les autres. Voilà comme, prenant la vie humaine au sérieux, elle n'avait pour en rire rien de véritablement sérieux. Honnête dans ses mœurs, humain avec ses semblables, probe dans les relations sociales, il tâchait cependant de coucher avec toutes les femmes, d'exploiter tous les hommes et d'accaparer tous les louis. Mais il voulait arriver au premier de ses buts sans qu'on s'en scandalise, au second sans qu'on s'en aperçoive, et au troisième sans qu'on le puisse blâmer ou punir, car il n'aimait pas le scandale en lui-même, n'avait pas plus d'égoïsme qu'un autre, et était vraiment un fort honnête garçon. Jusqu'alors, il n'avait pas eu d'ambition, mais il allait peut-être en avoir, à mesure qu'il découvrirait plus de choses à ambitionner, et que chaque jour, en acquérant quelques-unes, il lui en resterait davantage à acquérir. L'appétit vient en mangeant, et la convoitise en regardant. Pour compléter son éducation, il avait appris les notions de beaucoup de choses afin d'être universel, et il en avait étudié à fond une ou deux restreintes et particulières afin de s'y montrer profond. Il savait assez de mathématiques pour arpenter un jardin et assez de chimie pour ne point paraître ignorant à un apothicaire. En fait de tableaux, il en connaissait les gravures. En fait d'histoire, il savait par cœur les résumés. Mais il se sert des termes techniques d'atelier et il cite ses sources. Il n'a pas lu tout Corneille, mais il peut réciter quelques tirades de ses pièces les moins connues. Il lit des ouvrages latins avec la traduction en regard et des ouvrages grecs dans la version latine. Il a été en Italie, de sorte qu'il donne parfois des démentis formels aux savants qui ont étudié ce pays. Et comme il a aussi habité l'Amérique, il n'est pas non plus permis de parler du Nouveau Monde sans qu'il en dise son avis, et il faut qu'on le croie. Il se tient au courant de la politique dans le Moniteur et au courant des arts dans les petits journaux. Économie sociale, philosophie, industrie, commerce et travaux publics, c'est un homme qui peut causer de tout et qui ne dira jamais de sottises. Il a suivi tout un hiver un cours d'anatomie. Il va au concert du conservatoire. Il connaît même un peu la composition musicale, quoiqu'il ne sache pas tenir un archet ou chanter une chanson à boire. On le voit très enthousiaste des pièces à la mode et poursuivant de ses sarcasmes celles qui tombent. Son grand mérite est de savoir discerner le moment précis où une réputation s'établit, où une renommée s'efface. Alors il s'efforce de donner de l'éclat aux noms qui commencent à en avoir et de hâter la chute de ceux qui commencent à en perdre. L'événement arrivant après, on admire la justesse de ses appréciations et l'indépendance de son esprit, sans compter qu'il a droit à des amitiés nouvelles et qu'il peut être récompensé aussi par des haines victorieuses. Il n'a pas précisément comme son père des idées faites sur tous les sujets possibles, mais jugeant les hommes d'après une expérience purement personnelle et ne cherchant dans cette investigation qu'un résultat clair d'où il puisse tirer son profit, il ne tient pas compte de tout ce qu'il ne voit pas et il suppose trop volontiers ce qu'il croit devoir être. Il ne croit pas assez aux idées qui ne s'expriment point, ni aux sentiments qui ne se manifestent pas par des actions. Aussi se trompe-t-il quelquefois, en voulant rattacher à des causes permanentes des inspirations spontanées ou en déduisant de choses insignifiantes d'importantes conséquences. Ainsi, pour avoir vu beaucoup d'adultères en action, il ne remarque pas ce qui reste en pensée. Il a classé la passion et divisé le cœur en régions séparées. De là vient le calme de sa vie au milieu des agitations du monde. De là aussi le caractère superficiel de son intelligence, quoiqu'elle soit étendue. Il s'était d'abord adonné à l'étude des arts, mais il les a quittés, parce qu'il n'y voyait plus rien à apprendre, si évident qu'il n'avait rien appris, et il s'est lancé tout entier dans la vie pratique, et avec le temps, il deviendra un maître. Il a abandonné la peinture parce qu'il trouvait que les paysages étaient toujours faux et que les portraits n'étaient jamais ressemblants. Quant à la sculpture, il est toujours choqué de la froideur de ses groupes et de l'immobilité de ses figures. L'ancienne prédilection qu'il a gardée pour la littérature est plutôt le souvenir du charme qu'il en ressentait jadis que l'effet d'un goût réel. S'il s'applique à creuser une œuvre, il en regarde si attentivement la forme extérieure qu'il en perd vite le sens et qu'il la trouve presque toujours défectueuse. Comme il ne saisit pas le besoin qu'il a créé, il blâme justement ce qu'il y a d'essentiel en elle et passe ainsi, sans s'en apercevoir, par-dessus le sublime. Il ne remarquera pas la correction profonde d'une phrase incorrecte ni l'harmonie d'un rythme brisé. Il ne sent pas bien l'Antiquité dans ce qu'elle a de chaud, ni les temps modernes dans ce qu'ils ont de douloureux. Il a dans l'esprit un type vague auquel il rapporte ce qu'il voit dans l'art comme ce qu'il sent dans le monde. Pour lui, la tragédie doit être faite d'une certaine façon, le drame d'une certaine manière, le roman écrit d'un style particulier, l'histoire posée dans de certaines mesures. Il y a des faits qui doivent engendrer des réflexions d'une nature prévue, telle passion qu'il faut peindre sous les couleurs indiquées. Il possède même des principes sur l'humour, sur la fantaisie. Il en veut bien quelquefois, dans quelques cas, où il l'aurait senti lui-même, mais il ne voit pas d'autre fantastique que celui d'Hoffmann, ni un romantisme au-delà de Byron. Il croit bien connaître le théâtre parce qu'il saisit à première vue toutes les ficelles d'un mélodrame et les intentions d'une exposition, mais il ne voit pas les effets intimes, étant trop frappé des effets extérieurs, ni la combinaison des caractères, parce qu'il s'attache à celle des scènes, ni l'opposition des situations, parce qu'il ne pense qu'à celle des aventures. Il passe pour avoir le tact fin, car il découvrira l'épithète heureuse, le trait saillant ou le mot hasardeux qui fait tache. Mais c'est précisément à cause du goût qu'il pêche, ou du moins par ce qu'on appelle ainsi, et qui est le contraire du vrai goût, du grand goût, du goût divin. Il a un avantage sur ceux qui voient plus loin et qui sentent d'une façon plus intense, c'est qu'il peut justifier ses sensations et donner la preuve de ses assertions. Il expose nettement ce qu'il éprouve, il écrit clairement ce qu'il pense, et dans le développement d'une théorie comme dans la pratique d'un sentiment, il écrase les natures plus engagées dans l'infini, chez lesquelles l'idée chante et la passion rêve. Jules et Henri se revirent. Enfin les deux amis se retrouvèrent. Mais alors éclata leur antagonisme profond, dont le principe sans doute était en eux à leur naissance, mais qui avait grandi comme ils grandissaient et s'étaient développés comme eux-mêmes. Ils eurent une grande joie à se revoir, et quoique Henri fût dans une position meilleure que Jules, il ne trancha pas envers lui, ni de l'oublieux, ni au protecteur. Ils s'aimaient encore, et quand ils sortaient ensemble dans la rue, Jules vraiment n'était pas plus jaloux des bottes vernies d'Henri qu'Henri n'était humilié des gros souliers à cordons de Jules. Les sociétés dans lesquelles ils vivaient, cependant, ne se ressemblaient guère. Henri s'était fait présenter dans quelques salons politiques où il apprenait à caresser les grands et à cajoler les forts. Il s'exerçait déjà de son mieux à la tactique de la vie. Il fréquentait des journalistes, les gens en place, les actrices en nom. louvoyante entre toutes les vanités pour en étudier l'endroit sensible et tâcher d'en harponner quelque chose. Il visait à la réputation d'homme spirituel parmi les écrivailleurs et les vaudevillistes, et il donnait à entendre aux diplomates toute la force de son esprit et la profondeur de ses études, ayant grand soin de s'humilier devant leur savoir pour flatter leur amour-propre, tout en laissant échapper qu'il en savait davantage, afin de les convaincre de son mérite. Il brillait aussi dans un autre monde, dans celui des dandys et des femmes à la mode, grâce à son aplomb, à ses manières légères, à son luxe d'emprunt. Ainsi, il était l'ami du directeur d'un grand journal, chez lequel il faisait de bonnes connaissances pour l'avenir. Il était reçu chez un ministre où il se faisait voir, et il était l'amant d'une actrice qui le rendait célèbre. Il travaillait à une revue politique où il avait fait entrer la protection de la danseuse, et c'était comme collaborateur de sa revue que le journaliste avait présenté à Son Excellence. Son Excellence avait parlé deux ou trois fois, mais il avait payé au fils de Son Excellence plusieurs dîners splendides qui lui avaient acquis sa faveur et conquis son amitié. Ce fut alors qu'il quitta la danseuse avec laquelle il avait dépensé 15 000 francs en 3 semaines, c'est-à-dire 3 fois le double de son revenu annuel. Les folies nécessaires qu'il avait commises pour se faire connaître lui étant alors devenues inutiles, il y renonça aussitôt. La moitié en fut avouée au père Gosselin, qui les paya, et l'acquittement du reste fut remis indéfiniment. N'importe, il était en beau chemin. Il avait une réputation d'élégant dont l'écho pouvait encore durer quelque temps, une réputation d'homme d'esprit qu'il soutenait de tous ses efforts, et une réputation naissante de penseur, d'homme à études sérieuses et à ressources variées, qu'il établissait par l'intrigue. Quand il était en tête-à-tête avec Jules, il se moquait bien de tous ces orateurs empotés dont il louait l'éloquence, des talents inféconds, des habiletés obscures qu'il respectait, de toutes ces saines idées qu'il faisait profession de défendre. Mais, cependant, Jules trouvait qu'insensiblement il venait à respecter des choses peu respectables et admirer des hommes médiocres. Il logeait dans la rue de Rivoli, au 4e, il est vrai, mais il n'y en avait pas moins. Rue de Rivoli, sur l'adresse de ses cartes vernies. Il allait tous les soirs au bal, figurait une fois par semaine à l'orchestre des Italiens, et avait déjà des invitations pour passer ses vacances dans des châteaux. Jules logeait dans une chambre garnie de la rue Saint-Jacques et vivait en donnant quelques leçons de latin qu'on ne lui payait pas cher ou en faisant quelques articles dans les petits journaux qu'on ne lui payait pas du tout. Les deux bonnes maisons qu'il fréquentait, c'était Henri qui l'y avait introduit. Sa société habituelle se composait de 2 étudiants en médecine du quartier, de quelques jeunes peintres auxquels il faisait un cours d'histoire, un drame qu'il avait offert à un théâtre du boulevard et dont il n'avait jamais pu obtenir la lecture, l'avait mis également en relation avec 3 ou 4 acteurs, encore plus pauvres et tout aussi inconnus que lui. On se réunissait le samedi chez lui, dans son triste logement. Henri n'y venait pas. On causait d'art et de voyage, on se communiquait ses projets, ses plans, ses espérances. Mais les peintres le quittèrent quand le cours fut terminé, et les acteurs finirent aussi par ne plus venir le voir, trouvant qu'il leur donnait trop d'avis et ne tenait nul compte de leur progrès. Il lui resta seulement les 2 chirurgiens en herbe, qui lui étaient vraiment très dévoués, qui lui pardonnant ses poésies incompréhensibles et sa prose prétentieuse, le tenaient pour un excellent garçon et un bon camarade. On conçoit donc que Jules se rejeta avidement sur Henri, si habitué autrefois à le comprendre. Henri, de son côté, était bien aise de rencontrer dans son vieil ami quelqu'un de sûr, de discret et d'intelligent, à qui confier ses projets d'avenir et ses succès de chaque jour. Il ne pensait de même sur quoi que ce soit, et n'envisageait rien d'une manière semblable. Le scepticisme d'Henri était un scepticisme naïf et actif. Celui de Jules était plus radical et plus raisonné. Jules avait pour les femmes trop de mépris dans la pratique et trop d'estime en théorie. Henri, qui ne les plaçait pas si haut, les aimait davantage. Aussi le premier usait-il de celle du dernier rang, rêvant parfois, auprès d'une pauvre prostituée, les plus belles amours et les plus ardentes voluptés, tandis qu'Henri ne se donnait qu'à des maîtresses de choix qui lui faisaient goûter toutes les délicatesses de la femme dans les douceurs de l'opulence, avec tous les raffinements de la vie civilisée. Malgré sa haine des hommes, Jules n'était pas parvenu à s'empêcher de s'y fier encore, ni de s'en laisser rattraper et voler. Mais non dupé toutefois, puisqu'il n'entrait pas de lutte dans leur ruse, et ne posait nulle part comme leur rival. Henri, au contraire, qui aimait l'humanité, ne se fiait à aucun de ses membres. Il les divisait en deux grandes classes, celle des fripons et celle des niais. Il ne voulait pas entrer dans la seconde, et il se flattait de n'être pas de la première. Lorsqu'ils présageaient ensemble de la conséquence d'un fait ou de la conduite d'un individu, il se trouvait presque toujours que le hasard donnait gain de cause à Henri, tandis que la logique avait été du côté de Jules. Quelquefois, cependant, c'était Jules qui avait raison. Alors Henri n'y comprenait plus rien et tombait dans d'inexprimables surprises. Il ne comprenait pas l'insouciance de son ami relativement à la polémique et aux événements contemporains, lui qui épiait la naissance des plus petits faits et qui suivait à la piste les plus minimes incidents. Jules, de son côté, ne voyait pas le sens de cette attention continuelle du mesquin et de l'éphémère. Il confondait trop les nuances d'un même parti pour entendre quelque chose au débat des chambres, et ne distinguait pas assez les ambitions individuelles pour s'attacher aux péripéties d'un ministère. En histoire, ce qu'il recherchait, c'était les masses principales pour juger de l'ensemble, et les passions des hommes pour comprendre leurs actions. Henri, dans les mêmes études, n'était en quête que des causes et des effets, mais il ne remontait pas assez haut dans les causes, il ne voyait pas assez loin dans les effets. Son pittoresque aussi était tout extérieur et ne s'étendait pas au-delà des éléments qui lui en avaient fourni l'occasion. Il ne le sentait pas ou il ne l'avait point rencontré, ne le devinant jamais ou ne l'avait pas lu. En effet, se hâtant de fermer un livre dès qu'il en était arrivé à la dernière page, il ne pouvait s'opérer dans son esprit ce travail de reconstruction qui galvanise les morts, rétablit les ruines et donne au passé une vie réelle, et lucubration solitaire, composée de science et d'inspiration, enfantement complexe des intelligences, œuvre muette et féconde par laquelle l'histoire s'élève au niveau de la philosophie et de l'art, puisqu'elle a besoin de l'expérimentation analytique pour être vraie et les combinaisons de la perspective pour le paraître. Dans l'état encore incomplet de ses études, Jules se contentait d'exposer les opinions et les données différentes qu'il savait, laissant la conclusion à faire. Henri n'avait de doute qu'aux endroits où le doute est indiqué. Il était convaincu de ce que l'on croit communément. Il niait ardument tout ce que l'on nie. C'était bien pis encore en littérature. Henri était tout à fait revenu des admirations exagérées de sa jeunesse, mais en quittant l'exagération, il avait quitté l'enthousiasme, cette intelligence suprême des belles choses. La médiocrité de la pensée ne l'irritait pas, et il n'avait point non plus en son âme l'adoration des chefs-d'œuvre. D'ailleurs, ses prédilections et ses vénérations s'étaient toutes tournées d'un autre côté et n'offraient plus le même caractère. Quelle différence avec Jules, qui n'avait que des admirations d'artistes, que des antipathies nerveuses. Les livres qu'Henri lisait le soir dans son lit avant de s'endormir, c'étaient les romans nouveaux, les pièces du jour, des feuilletons ou des vaudevilles. Quand il voulait prendre des œuvres sérieuses, c'était celles des époques les plus littéraires en elles-mêmes, des génies les plus corrects et les plus châtiés. Son poète favori était Horace. Il lisait volontiers les plaidoiries de Cicéron. Aimait-il retrouver dans Racine quelque chose de sa propre tendresse, et se plaisait même aux plis nombreux et réguliers du style de Fénelon. Il avait gardé du romantisme, vieux mot qu'on emploie à défaut d'un meilleur, que le côté tout extérieur est le moins romantique, pour ainsi dire, ce romantisme à ogive et à côte de maille, qui est à celui de Goethe et de Byron, ce qu'est le classique de l'Empire au classique du XVIIe siècle, dont Walter Scott peut-être a été le père et le bibliophile, Jacob à coup sûr l'ensevelisseur. Aussi, quand il sortait de son admiration égale pour les modèles respectés, c'était alors pour vanter quelques productions inconnues d'un génie incompris, qu'il regardait toujours comme le premier du siècle, et il employait pour le vanter des formules d'une admiration hyperbolique, tout à fait indigne des honnêtes gens. Puis, dès que la mode s'en était passée, ou que sa manie avait cessé, il en revenait avec d'autant plus d'acharnement et d'exclusion à ses maîtres favoris, et il n'en a pas d'autres. Jules, au contraire, avait une irrésistible attraction pour les époques plantureuses, telles que le Bas-Empire et le XVIe siècle, où la végétation complète de l'esprit humain s'est montrée dans toute sa richesse et son abondance, où tous les éléments ont été mêlés, toutes les couleurs employées. De même qu'il était épris avant tout de ces rares génies dont la variété et l'ampleur sont le trait dominant et dont la vérité constitue l'originalité, Homère et Shakespeare étaient les dieux de son ciel poétique. Sentait-il d'ailleurs le besoin de se retremper dans une forme plus concrète et plus simple, où le détail a plus de charme, plus de physionomie en lui-même? Alors il remontait à la source même de la grâce et à la beauté incarnée, c'est-à-dire à la Grèce, à Sophocle. Il risait aussi Corneille pour la simplicité et Voltaire pour la netteté. Ne recherchant dans l'art que des sensations ou de simples amusements d'esprit, Henri ne s'entendait pas avec Jules, qui puisait des émotions d'intelligence et y cherchait le rayonnement de cette beauté rêvée qu'il sentait en lui-même. Partant de deux principes opposés, de deux points différents, et se dirigeant chacun vers un autre but, vers une autre fin, ils ne devaient donc jamais se rencontrer, quoique s'appelant de temps à autre de la voix, quoique s'arrêtant quelquefois dans leur chemin, par complaisance ou par fatigue.